Chapitre 4. Lorsqu'une quinte de toux la tire d'un rêve de noyade, Sophia sait immédiatement où elle se trouve. Elle est attachée dans le lit de l'homme qui prétend s'appeler Ville. Allongée sur le dos, elle est entravée par des sangles de cuir tendu. Il l'a ligotée tellement serrée que ses jambes et ses bras sont étirés à l'extrême, ses poignets brûlants et ses doigts gelés. Elle a la bouche sèche. Sa langue ne saigne plus, mais elle est gonflée et douloureuse. Sa robe lui est remontée jusqu'à la taille quand l'homme lui a écarté les cuisses. « Ça ne peut pas être vrai, » pense-t-elle. Prévoyant toutes ses réactions, il avait déjà placé la drogue dans une des flûtes à champagne qu'il a sortie du placard. Sophia entend une voix dans une pièce attenante, un entretien tenu sur un ton professionnel, un chef qui parle. Elle tente de lever la tête pour regarder par la fenêtre et voir s'il fait nuit ou jour, mais elle n'y arrive pas. Ça lui fait trop mal au bras. Elle ignore totalement combien de temps elle est restée ainsi. Il revient dans la chambre et la peur se répand dans le cœur de Sophia comme du poison. La panique afflue dans son crâne, son gosier se contracte et son pouls s'emballe. Ce qui ne devait jamais arriver est arrivé. Elle essaie de se calmer, se disant qu'elle doit à tout prix engager une conversation. Il faut lui faire comprendre qu'il a choisi la mauvaise fille, mais qu'elle ne se formalisera pas s'il la relâche immédiatement. Sophia se jure d'arrêter cette activité d'escort girl. Elle fait ça depuis trop longtemps déjà, et de toute façon elle dépense l'argent en futilité. L'homme l'observe avec la même avidité qu'avant, et elle s'efforce d'afficher un visage calme. Elle savait dès le départ que quelque chose n'allait pas. Et au lieu de tourner les talons et de s'en aller, elle a ignoré son intuition. Elle a commis une erreur catastrophique. Elle s'est comportée avec le même désespoir qu'une héroïnomane. « Je vous ai dit non pour ce genre de rapport, » dit-elle en se ressaisissant. « Oui, » réplique-t-il avec un sourire qui s'attarde sur ses lèvres quand il parcourt du regard le corps de Sophia. « Je connais des filles qui seraient d'accord, je peux vous donner leurs coordonnées si vous voulez. » Il ne répond pas. Se contentant de respirer lourdement par le nez, il se plante au pied du lit face à ses jambes écartées. Elle commence à transpirer abondamment et se prépare à la violence et à la douleur. « Là, c'est de l'abus de pouvoir. Vous le comprenez, j'espère. » Il ne répond toujours pas, remonte seulement ses lunettes sur son nez et la contemple d'un air intéressé. « Cette situation est très désagréable et dégradante pour moi, » reprend Sophia. Mais elle se tait lorsque sa voix se met à trembler. Elle se force à calmer sa respiration. Il ne faut pas qu'elle lui montre sa peur, il ne faut pas le supplier. Qu'aurait fait Tamara? Sophia voit devant elle le visage constellé de taches de rousseur de son amie, son petit sourire moqueur, son regard dur. J'ai vos coordonnées dans un carnet chez moi, dit-elle en le fixant droit dans les yeux.
Quelles coordonnées? Demande-t-il avec indifférence.
Votre nom, qui est sûrement inventé, mais aussi votre adresse email, l'heure du rendez-vous.
Très bien. Comme ça, je suis au courant.
Le matelas rebondit quand il commence à ramper vers elle sur le lit. Il s'arrête entre ses cuisses, se balance un peu, saisit sa culotte et tire dessus d'un coup sec. La douleur fuse jusqu'à son épaule, comme si elle se l'était luxée. L'homme tire de nouveau, des deux mains. La culotte cisaille ses hanches, mais les coutures des élastiques tiennent bon. Il chuchote quelque chose pour lui-même et l'abandonne sur le lit. Le matelas bouge encore une fois. Sophia sent qu'elle va avoir une crampe à la cuisse. Un souvenir fugace des entraînements de foot lui traverse l'esprit. Elle se rappelle le petit serrement du mollet annonçant la contraction musculaire quand elle tentait de retirer les petites mottes de terre et d'herbe agglutinées entre les crampons de ses chaussures. Les visages rouges et chauds de ses copines, le plancher bruyant des vestiaires, l'odeur de transpiration, de pommade et de déodorant. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu se retrouver ici? Sophia lutte contre les larmes. Elle a l'impression qu'elle sera fichue si elle montre à quel point elle a peur. L'homme revient avec des ciseaux à ongles, coupe la culotte des deux côtés et la retire.
Il y a beaucoup de filles qui sont d'accord pour le bondage, tente Sophia. Je connais...
Je ne veux pas des filles qui sont d'accord, l'interrompt-il, et il balance la culotte à côté d'elle sur le lit.
Ce que je veux dire, c'est que ça les excite d'être attachés, précise-t-elle.
Tu n'aurais pas dû venir, constate-t-il simplement.
Sophia perd son calme et se met à pleurer. La terreur lui fait tendre le dos et tirer sur les courroies qui lui lacèrent la peau. Le sang coule et forme de petits ruisseaux sur son avant-bras droit.
« Ne faites pas ça !»
le supplie-t-elle. L'homme retire sa chemise et la lance par terre, descend un peu son pantalon, puis déroule un préservatif sur son sexe à moitié dressé. Il se met à genoux et elle sent l'odeur de caoutchouc sur ses doigts quand il lui enfonce sa culotte en lambeaux dans la bouche. Ça lui donne la nausée. Elle manque de vomir. Sa langue est complètement desséchée et des larmes coulent sur ses joues. Il comprime un de ses seins à travers le tissu de la robe, puis s'allonge lourdement sur elle. De peur, Sophia fait pipi, un fleuve brûlant d'urine qui se répand sous elle. Quand il essaie de la pénétrer, elle se tourne sur le côté et le repousse avec sa hanche. Une goutte de sueur tombe du bout du nez de l'homme sur son front. Il saisit son cou d'une main, la regarde avec des yeux scintillants, lui serre la gorge et s'allonge sur elle de nouveau. Sous son poids, Sophia s'enfonce dans le matelas et ses cuisses s'écartent encore davantage. Ses chevilles brûlent et les montants du lit craquent. En manque d'oxygène, elle rejette la tête sur le côté et parvient à inspirer un peu d'air par le nez. Les doigts serrent plus fort son cou. Des points noirs surgissent devant ses yeux et la pièce s'assombrit. Il tente à nouveau de la pénétrer et elle lutte pour lui résister, mais c'est impossible. Il la violera quoi qu'elle fasse. Elle ne peut pas rester dans son corps. Il faut qu'elle pense à autre chose, qu'elle disparaisse ailleurs. Des réminiscences surgissent sous forme de flashs. Les froides soirées sur le grand terrain gazonné, la respiration douloureuse, la fumée qui sort de la bouche et la quiétude du côté du lac et de la vieille école de Bolstanes. L'entraîneur montre le ballon, donne un coup de sifflet et le silence se fait. Les mains autour de son cou desserrent leur étreinte. Sophia tousse et expulse la culotte, aspire de l'air, cligne des yeux. Elle entend au loin quelques notes de musique électronique. L'homme se remet à genoux. Quelqu'un sonne à la porte au rez-de-chaussée. Il attrape son menton, l'écrase brutalement pour lui faire ouvrir la bouche et y fourre de nouveau la culotte. La nausée revient. Elle respire par le nez, n'arrive pas à déglutir. La sonnette retentit une deuxième fois. L'homme lui crache dessus, se lève, remonte son pantalon et sort en emportant sa chemise. Dès qu'il a disparu par la porte, Sophia tire sur sa main droite de toutes ses forces, bravant la souffrance. Au prix d'une douleur abominable, sa main se libère de la sangle. La culotte dans sa bouche l'empêche de hurler. Elle tremble de tout son corps et manque de s'évanouir. Elle s'est peut-être fracturé le pouce ou déchiré les ligaments. Sa peau a été arrachée comme on retire un gant et le sang coule le long de son bras quand elle le lève vers sa bouche pour ôter la culotte. Avec des gémissements hystériques, elle s'acharne sur la lanière autour de sa main gauche. Ses doigts glissent sans arrêt, mais elle réussit à défaire la boucle et détache rapidement la courroie, s'assied et se débarrasse des attaches autour de ses pieds. Elle se met debout sur ses jambes flageolantes, plaque sa main blessée contre son ventre et commence à marcher sur l'épaisse moquette. Le choc et la douleur font bourdonner sa tête, ses pieds sont ankylosés et sa robe, froide et mouillée, colle à ses fesses. Sophia quitte la chambre en silence et se faufile dans le couloir où l'homme vient de disparaître. Elle s'arrête avant d'atteindre l'escalier. Au rez-de-chaussée, elle entend une autre voix et se dit qu'elle va appeler au secours. Elle ne peut pas saisir les paroles et elle s'avance prudemment. Des vêtements sont posés sur la rambarde du palier, tout juste récupérés au pressing. À travers le mince plastique protecteur, elle aperçoit plusieurs chemises blanches, toutes identiques. Elle s'éclaircit doucement la voix pour appeler à l'aide lorsqu'elle comprend soudain la situation en bas. La deuxième personne n'est pas à l'intérieur de la maison. Sa voix provient de l'interphone. C'est un livreur qui se tient devant la grille et demande qu'on lui ouvre. Wheeler répète qu'il devra revenir plus tard, raccroche et revient vers l'escalier. Sophia chancelle, mais parvient à conserver son équilibre. Ses orteils brûlent et picotent lorsque le sang commence à y affluer de nouveau. Le parquet grince sous ses pieds quand elle recule. Elle regarde autour d'elle et devine une autre pièce au fond du couloir, au mur décoré de portraits peints. Elle pourrait y courir, ouvrir une fenêtre et appeler à l'aide. Mais elle réalise qu'elle n'en aura pas le temps.